Avant de plonger dans votre prochain épisode de Course Épique, je voulais vous parler de l'Odyssée ASPTT, le podcast qui retrace une épopée sportive de 125 ans. Le mouvement ASPTT propose une multitude d'activités sportives pour tout niveau, du débutant au confirmé, dans toute la France. J'ai particulièrement aimé dans ce podcast l'alternance entre les anecdotes historiques sur de nombreuses disciplines sportives et les témoignages en immersion des adhérents de l'association. C'est à la fois rythmé, vivant et instructif. Avec ce podcast, vous allez vous plonger dans l'odyssée de cette association, véritable pionnière dans la démocratisation du sport en France. Et puis les 4 épisodes de l'Odyssée ASPTT mettent en lumière ce qu'il y a de plus essentiel dans le sport selon moi. Les notions d'égalité, de solidarité, d'inclusion et d'accessibilité. Et dont la course à pied est d'ailleurs une très belle expression, vous êtes bien placé pour le savoir. Vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire. Faites comme moi, courez découvrir les 4 épisodes de l'Odyssée ASPTT sur votre plateforme d'écoute favorite.
J'ai pas eu de gros résultats dans ces années-là, 2008-2009, mais par contre 2010, tout m'a réussi cette année-là, quoi. Donc ça a commencé au championnat d'Europe, donc là je me suis retrouvé dans l'équipe de relais, j'étais un peu le remplaçant du remplaçant, et du coup j'ai bien couru, je faisais le premier relais, je suis rentré en tête au début, puis on a remporté une médaille, donc là c'était super, c'était ma première médaille internationale, même en junior j'avais jamais remporté de médaille. Franchement, en course d'orientation, déjà, on se lâche jamais parce que c'est tout le temps différent. Chaque course, c'est un nouveau terrain, une nouvelle carte. Donc, on n'est jamais allé voir les balises ou les points sur la carte. Moi, je me suis dit, je vais faire ce que je peux. De toute façon, j'avais aucune pression puisque c'était mon premier essai. Voilà, donc si au pire, j'étais nul, personne ne l'aurait vu. Puis si je suis bon, ça s'est un peu plus vu, mais... Franchement, avant la course, je me retrouvais comme un débutant, quoi. Donc déjà, je savais pas trop comment m'habiller, comment me chausser, qu'est-ce qu'il faut prendre, les gels, tout ça. J'avais même pas de gel, c'est pour dire. Est-ce qu'on prend une flasque d'eau, est-ce qu'on la remplit, est-ce qu'on la remplit pas, tout ça. Donc ouais, non, j'avoue, moi je me retrouvais un peu comme un débutant. Je suis un mec qui lâche pas trop. En principe, je lâche rien. Donc je savais pas si j'allais tenir jusqu'au bout, j'avoue. Ouais, déjà, ça m'a fait, ça m'a fait marrer ou sourire, ouais. Puis après, je me suis dit, mais attends, mais c'est vrai, ça? Enfin, j'essaie de voir s'il y avait d'autres résultats quelque part pour vérifier tout ça. Et puis, non, après, quand j'ai compris que, je me suis dit, j'ai fait une bonne course, quoi. Ils m'ont dit après, mais en fait, les gens, ils se disaient, mais non, mais c'est fake, c'est pas un vrai résultat, quoi. C'est qui ce gars-là? Ou alors, il a triché, je sais pas, il a pris un vélo électrique.
Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Merci à tous pour vos messages d'encouragement quotidien, c'est génial pour moi de voir cet engouement et cette communauté de passionnés de trail, de course à pied ou tout simplement de belles histoires qui s'agrandit jour après jour. N'hésitez pas à partager Course Épique autour de vous, sur les réseaux sociaux, à lui mettre le maximum d'étoiles sur Apple Podcasts, cela aidera le podcast à continuer à grandir, à se développer et à recevoir des invités géniaux épisode après épisode. Place aujourd'hui à un épisode et un parcours pas tout à fait comme les autres. Vous allez faire la connaissance de Frédéric Tranchant. Frédéric pratique la course d'orientation depuis de très nombreuses années et s'est taillé une solide réputation et un sacré palmarès dans la discipline. Une discipline relativement méconnue qu'il ne va pas manquer de nous présenter dans cet épisode. Au cœur de l'été 2020, Frédéric s'avance vers la mythique course circiennale pour s'essayer au trail. Sa cote ITRA, la cote de référence en trail, est alors de 0. Pour tout vous dire, moi-même trailer très très amateur, j'ai une cote de 452. C'est donc dans l'anonymat le plus complet que Frédéric s'élance sur les sentiers de Circiennale au mois d'août dernier. Il va y signer un retentissant exploit en finissant deuxième de la course, à seulement 30 secondes de la légende Kilian Jornet et devant des coureurs de trail de renommée internationale tels que Rémi Bonnet. Personne n'avait vu venir Frédéric. Et quitte à marquer de son empreinte cette épreuve, il va en profiter pour, très modestement, signer la meilleure performance française de tous les temps sur le parcours. Dans cet épisode, Frédéric va partager avec nous son quotidien d'orienteur, basé en Finlande, nous raconter ce qui l'a poussé à s'essayer au trail, à la façon dont il a géré cette course particulière qui s'est tenue cette année sur une période d'un mois, et enfin, comment il a géré l'attente d'après-course jusqu'au départ du gratin international du trail, 3 semaines après lui, pour connaître sa place finale. Frédéric va nous embarquer avec beaucoup d'humilité sur les sentiers de cette course étonnante en tout point. Mais je ne vous en dis pas plus, il va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue à tous dans ce 16e épisode de Course Épique, l'inconnu qui talonna Kilian Jornet.
Bienvenue sur Course Épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute!
Bonjour Frédéric, je suis ravi de te recevoir dans Bonjour. Ce 16e épisode de Course Épique. À l'heure où nous enregistrons cet épisode, tu viens tout juste de signer une remarquable victoire sur la CRS de Mathézin. Bravo pour ce succès, comment se passe la récup?
Eh ben merci, j'avoue les jambes sont un peu tendues et encore un peu fatiguées après deux jours, mais puis j'ai quelques coups. Entre autres au niveau des pieds, enfin d'un pied. Mais du coup, je prends le temps. J'ai fait un petit peu de vélo hier. Aujourd'hui, je pense aussi tranquille, quelques jours. Et puis voilà, faut bien récupérer après une course comme ça.
Est-ce que tu savoures cette victoire?
Oui, si, je suis content, c'est sûr. En plus, il y avait des belles vidéos. Entre autres, ben, toute la course était filmée en direct. Et par exemple, même mes parents et puis d'autres ont regardé. Et puis, ils ont vraiment apprécié parce qu'il y avait des beaux paysages. Et puis bon, du coup, j'étais en tête pas mal de temps.
Ils étaient fiers de leur enfant.
Ouais, je pense. Bravo, ça fait plaisir de courir des courses comme ça, en particulier cette année où il n'y a pas eu trop de compétition.
C'est une belle récompense de pouvoir courir ce genre de course. Et en plus, les gagner, ouais. c'est la cerise sur le gâteau. Avant qu'on parle plus spécifiquement de ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient peut-être pas?
Voilà, je m'appelle Frédéric Tranchant. Dans le sport, en tout cas en course d'orientation, ils m'appellent souvent Fredo. Et donc, je suis originaire du sud du département de la Loire, dans le parc du Pila, dans le parc régional naturel du Pila. C'est une petite montagne donc, qui culmine à 1432 mètres, je crois.
C'est précis.
Et donc, je suis de la campagne. Chez le village, il s'appelle Chuyé, mais donc, voilà.
Pour les connaisseurs.
Mon père, en fait, mon père est éleveur, donc ils ont des vaches laitières avec mon frère. Après, donc, j'ai fait des études d'ingénieur à l'INSA de Lyon. Donc, je suis diplômé en génie civil et urbanisme. Et donc, en fait, j'ai bénéficié d'un aménagement de toute la scolarité grâce au cursus sport-études, qui était vraiment intéressant, quoi. Et puis, donc, après mes études, pour passer la marche supérieure, on va dire, dans mon sport, donc la course d'orientation, j'ai voulu déménager en Scandinavie. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé en Finlande.
Où tu vis encore aujourd'hui?
Ouais, où je suis basé aujourd'hui, on va dire. Je suis encore un peu nomade. Parce qu'en fait, notre sport, il est très scandinave. Bon, il est né là-haut et puis c'est quand même bien développé là-bas. Il y a beaucoup de clubs, énormément d'événements tout le temps, à la fois pour les clubs et même pour les amateurs, je dirais, on va dire. Et puis voilà, donc forcément, pour nous, les élites, on va dire, il y a beaucoup de compétitions là-haut. Donc, il y a souvent des championnats du monde, des coupes du monde.
C'est le Graal pour vous.
Ouais, et puis ça vaut le coup aussi d'y passer un peu de temps en Scandinavie, pour progresser, quoi. Et puis voilà, comme je disais, pour moi, ça, je pense que ça a permis de me faire franchir une certaine étape, ouais. Je me suis retrouvé là, j'avais plusieurs idées, parce qu'ils m'ont trouvé un emploi à temps partiel et très très flexible. Donc je travaillais pour une commune où je faisais des plans de voirie et de réseaux divers. Donc c'était vraiment bien pour moi. Je pouvais m'absenter pour les stages, les entraînements un peu quand je voulais. Et après, je suis parti deux fois en Australie. C'était quoi, 2018-2019, hein, l'hiver ici, il était là, où j'étais à Canberra. Et donc là, j'étais officiellement volontaire pour l'organisation de courses d'orientation locales, donc où je faisais un peu de coaching. J'internais même dans les écoles pour enseigner aux écoles primaires, des fois, la course d'orientation, organiser des événements, tout ça. Et puis ça m'a vraiment plu. Du coup, je suis reparti l'année suivante à Melbourne, ou en tout cas pour l'état de Victoria, un peu plus au sud, où j'étais là, 2019-2020. Puis après, j'étais un peu... avec le Covid, j'étais un peu bloqué là-bas, les avions tout annulés. Du coup, j'ai fait un peu de rab, je suis resté un peu plus longtemps que prévu. Mais... Et après, donc, je suis rentré en Finlande début juillet, où en fait, on m'avait retrouvé un emploi, le même emploi que j'avais avant, en fait, si on veut, mais pour la commune voisine. Donc, c'est ce que je fais en ce moment. Bon, là, je suis en France, mais je travaille un petit peu quand même à distance.
Et est-ce que tu pourrais nous parler, justement, tes premiers pas dans le sport? Tu nous as expliqué que tu avais des horaires qui étaient aménagés quand tu étais plus jeune pendant tes études. Ouais. Quel sport tu pratiquais à l'époque? Et puis, est-ce que tu peux nous dire petit à petit la course d'orientation, comment s'est fait le cheminement qui t'a amené jusqu'à la course d'orientation?
En fait, nous, dans le village où je suis d'ailleurs avec trois autres villages, je crois, il y a une entente, il y a un seul club, c'est le club de foot. Donc, bien sûr, j'ai commencé comme tout le monde ici, hein, avec mes cousins. Et donc, les quatre premières années, donc ça devait faire quoi? Quand on avait 6-10 ans, je pense, quelque chose comme ça, je faisais du foot. Et puis, en fait, mon frère, qui a 4 ans de plus, oui, il avait commencé la présentation avec des copains au village voisin, la petite ville voisine, où il y a un club de présentation qui est bien actif. Et donc voilà, donc nous des fois avec mes parents on suivait et du coup ça me motivait vraiment d'en faire aussi. Et donc en fait la course d'orientation, on peut pas commencer non plus trop trop jeune. Donc, ici on peut commencer à 10 ans à faire ce qu'on appelle l'école d'orientation. Donc c'est tous les mercredis après-midi où c'est un peu l'initiation et puis voilà, on va dans les terrains locaux, les cartes locales, petite forêt locale, ouais. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé.
T'as tout de suite aimé? Ça a été tout de suite un coup de cœur?
Ouais, je pense au début. Je pense qu'au début, j'aimais bien courir et puis courir dans la forêt, mais pas forcément lire la carte. Et entre autres, quand on commence la course d'orientation sur les compétitions, pour les petits, en fait, on met des jalons. Donc, les petits peuvent juste suivre les jalons. Et puis souvent, les gens, ils font exprès des petits détours. Donc, les petits qui veulent lire la carte, eh ben, ils peuvent couper. Donc ça, c'est vraiment bien. Et moi, je pense qu'au début, je coupais jamais. Je faisais tout le tour à fond par les jalons.
Tu préférais courir.
Et ça me plaisait bien. Ouais. Okay. Mais non, mais je pense que j'ai bien aimé. Bon, j'aime bien les cartes et tout. J'aime bien lire les cartes. Donc si, l'aspect courir en forêt et l'aspect lire la carte. Et puis aussi construire son propre itinéraire, décider où on va. Ça m'a vraiment plu. Et en plus, c'est vrai qu'il n'y a pas une densité folle. Et du coup, je me suis retrouvé à faire quand même des bonnes places assez vite. Donc, ça, c'est sûr que ça motive, quoi.
Et est-ce que tu pourrais justement nous en dire plus sur la course d'orientation, qui est une discipline qui est plutôt méconnue, en tout cas aujourd'hui en France? Est-ce que tu peux nous raconter les grands principes et peut-être les différents formats de course qui existent aujourd'hui?
Ouais. Donc voilà, le principe, c'est on a une carte au départ de la course, donc on n'a jamais vu, en tout cas on n'a jamais vu le circuit. Donc sur la carte, il y a un circuit avec un point de départ, des points de passage qu'il faut faire dans l'ordre et le plus rapidement possible. Donc c'est une course en principe en contre-la-montre. Et voilà, donc si on veut gagner la course, il faut aller au plus vite, quoi.
D'accord, il faut borner, en fait, c'est ça, sur les différents points de passage, concrètement, comment
voilà,
ça se
donc,
pour s'assurer que tu es passé par chacune des étapes.
Voilà, donc il faut passer par chaque étape, c'est ce qu'on appelle balise dans l'ordre. Et maintenant, c'est un poissonnage électronique, donc depuis très longtemps, ouais. Donc pour qu'il voit qu'on y est passé déjà. Et puis même, on peut voir après la course, on peut voir les temps intermédiaires. Donc entre chaque point de passage, on peut voir le temps qu'on a mis, on peut comparer avec les copains, tout ça. Et oui, et par contre, entre chaque point de passage, eh ben, on y va comme on veut, quoi. C'est nous qui choisissons notre propre itinéraire, qui naviguons avec les éléments qui sont
sur le
parcours. Voilà, c'est ça, ouais.
Et il y a différents types de formats, c'est ça, hein, des formats plus courts, des formats en relais, c'est ça?
Oui, donc on va dire en course internationale, puis même nationale, ouais. Donc en principe, il y a, on va dire, trois formats. Donc la distance classique, donc qui est depuis toujours, on va dire, et puis que nous on appelle longue distance. En fait, le traceur, il va faire en sorte que le vainqueur il gagne entre 1h30 et 1h40 la course. En gros, les grands traits de cette distance là, c'est qu'il y a, en fait, il y aura des choix d'itinéraire. Enfin, il y aura des, entre chaque point de passage, donc entre chaque balise, il y a certaines qui seront assez longues. Donc là, on pourra choisir notre choix d'itinéraire et, en fait, ce qui sera très décisif. Donc des fois, bon, on peut faire simple. Est-ce qu'on va tout droit, on monte la montagne et on redescend? Est-ce qu'on fait le tour par le chemin autour? Est-ce qu'on fait le tour de l'autre côté? Des choses comme ça. Donc c'est ça la particularité. Après, donc le deuxième format, c'est la moyenne distance. Donc le temps du vainqueur sera entre 35 et 40 minutes. Et donc là, souvent, on va dire, c'est la course la plus intense techniquement, parce que toutes les balises seront difficiles à trouver, on va dire. Et puis voilà, ça va assez vite, en fait. Donc il faudra naviguer très précisément pendant 35-40 minutes. Donc je pense que c'est la plus intense mentalement et techniquement. Et après, donc le troisième format, qui est assez récent, enfin depuis la fin des années 90, début des années 2000, c'est rentré au championnat du monde. Donc là, c'est 15 minutes. Et en fait, c'est pour le temps du vainqueur, à peu près. Et en fait, c'est très intense. Donc c'est en format urbain, quoi. C'est en ville ou en parc. L'idée, c'est de se faire voir, quoi. Que ça soit spectaculaire, qu'il y ait des gens qui nous voient passer avec une carte à fond la caisse. Et en fait, donc c'est quelque part techniquement un peu plus simple. C'est en deux dimensions, parce qu'en fait on va à droite ou à gauche, quoi. On fait le tour d'un bâtiment à droite à gauche, alors qu'en forêt il y aura beaucoup plus d'aspects. Il faudra regarder le relief, la végétation, comment ça court avec les rochers, plein de choses, quoi, en fait. Alors que là, mettons on a une rue, ça sera à droite ou gauche, quoi. Et puis les balises seront pas très difficiles à trouver. Je dirais que des gens qui débutent, ils pourraient les trouver, sauf que par contre il faudrait décider super vite. Et là, il faut prendre des décisions, mais très, très vite, et puis prendre les bonnes, parce que là, pour le coup, si on perd 5 secondes ou 10 secondes, bah là, c'est énorme, quoi. Donc, il faut prendre des décisions très vite et puis les bonnes. Donc, c'est ça la particularité du sprint. Et donc après, comme vous dites, il y a les relais. Donc, en course internationale, souvent, c'est à 3. Donc, voilà, donc c'est comme un relais en athlétisme ou en ski de fond ou autre. Donc, les premiers relayeurs de chaque équipe, ils partent en masse. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas tous les mêmes balises, on va dire. Donc voilà, ça part en masse les premiers relayeurs. Après, il passe le relais au deuxième relayeur qui va faire les balises différentes que le premier relayeur il n'a pas faites. Et après, le troisième relayeur, il fait aussi des balises différentes. Ce qui fait qu'à la fin de la course, toutes les équipes auront fait les mêmes balises. Et donc voilà, donc moi, c'est le format qui me plaît le plus, parce qu'à la fois, on court avec du monde autour. Donc c'est quand même, je ne sais pas comment dire, c'est grisant, quoi. Enfin, c'est motivant. Il y a des mondes très proches. Par contre, il faut quand même être très, très prudent, quoi. Il faut aller à nos propres balises, parce que les autres n'ont pas forcément les mêmes. Peut-être des fois, ils ont les mêmes, pas sûr. Et puis voilà, c'est une course d'équipe, donc on se bat pour l'équipe, donc ça me plaît beaucoup. Et après, donc les relais, il y a donc en Scandinavie, il y a des grands relais. C'est pour ça que les clubs scandinaves, ils aiment bien avoir des élites étrangers. Donc, la plupart des gens en équipe nationale, mettons en France, République tchèque, en Suisse, n'importe où, ils ont aussi un club en Scandinavie pour représenter un club là-haut. Pour nous, ça nous intéresse beaucoup parce qu'on peut faire des stages là-haut. Puis, comme j'ai dit, là-haut, c'est très constructif, quoi. Enfin, tous les entraînements là-haut sont vraiment intéressants, les compétitions là-haut. Et pour eux, c'est intéressant parce qu'ils renforcent leurs équipes pour ces grands relais qui sont, pour beaucoup, c'est l'objectif de l'année, c'est ces grands relais, en fait.
Et est-ce que la France, c'est une grande nation dans la course d'orientation, dans le paysage mondial aujourd'hui? Les pays qui dominent le plus sont justement les pays scandinaves?
En équipe nationale, oui, c'est les Scandinaves, clairement. Les Suisses sont vraiment costauds. Je dirais un peu les Tchèques, les Russes. Mais après, nous, en France, on a eu la chance, vous connaissez peut-être Thierry Georgiou, qui a remporté 14 titres de champion du monde. Et donc, c'est le plus titré chez les hommes. Ouais. Donc, chez les dames, il y a eu d'autres, comme une Suisse, une Suédoise, je pense, qui ont été plus titrés. Donc, lui, il a été très moteur pour l'équipe de France. Et donc, plusieurs ont suivi ou étaient un peu au même moment. Donc voilà, on n'est pas à rougir, quoi. On va dire que c'est sûr qu'on n'a pas la même densité qu'en Scandinavie, donc c'est dur de rivaliser, ouais, toujours.
Ton nom aujourd'hui, Frédéric, il n'est pas nécessairement connu à la juste hauteur de ton palmarès, peut-être du fait de la relative faible notoriété de la course d'orientation. Si on cite que quelques lignes de ton palmarès dans cette discipline, tu as gagné 7 médailles d'argent et de bronze au championnat du monde d'orientation, 4 autres médailles au championnat d'Europe. Tu es également champion du monde militaire et universitaire. En cross, tu as été 4 fois vice-champion de Finlande, ton pays de résidence, tu nous l'as dit tout à l'heure. Et enfin, sur piste, une activité que tu ne travailles pas spécifiquement, tu as quand même des références très évocatrices, 29,55 au 10 km et 14,32 sur le 5000 mètres. On l'a dit en préambule, tu es fraîchement lauréat de la SkyRace des Matézins. Donc, tu as un palmarès qui est complètement incroyable. Est-ce que tu pourrais nous parler, peut-être parmi toutes ces courses ou d'autres, en tout cas des moments de ton parcours jusqu'ici qui ont été charnières, c'est des moments qui ont pu faire basculer ta vie de sportif ou plus globalement d'homme dans une nouvelle dimension? Est-ce qu'il y a eu 2-3 étapes marquantes dans ce parcours sportif que tu as connu jusqu'ici?
Oui, je commencerai peut-être par en 2010, en fait. Je pense que j'ai beaucoup progressé les années 2008-2009, donc mes dernières années junior, première année senior, et entre autres, avoir la chance de côtoyer les gars comme Thierry, et puis François Gonon, Philippe Adamski, Damien Renard, pour les citer, qui étaient professionnels, au sens du terme de faire le job pour la course d'orientation, mais à 200%, quoi. Donc vraiment se soucier de tous les détails, tout ça. Et donc là, moi, ça m'a fait beaucoup progresser ces années-là. J'étais le petit jauneau et le sélectionneur de l'équipe de France de l'époque était un Suisse et il me mettait dans la chambre avec Thierry, par exemple, pendant les stages, les choses comme ça. Et du coup, forcément, ça, l'apprentissage, il se fait à vitesse grand V, quoi. Et du coup, j'ai pas eu de gros résultats dans ces années-là, 2008-2009, mais par contre, 2010, je sais pas comment ça se fait, mais tout m'a réussi cette année-là, quoi. Donc, ça a commencé au championnat d'Europe. Donc là, je me suis retrouvé dans l'équipe de relais. Je pense que j'étais un peu le remplaçant du remplaçant, quoi, mais voilà. Et du coup, j'ai bien couru. Je faisais le premier relais, je suis rentré en gros en tête au début, puis on a remporté une médaille. Donc là, c'était super, c'était ma première médaille internationale, même en junior, j'avais jamais remporté de médaille. Et en fait, et après l'été, donc un peu plus tard, c'était le sprint. Et là, c'était ma première finale de championnat du monde, parce que l'année d'avant, j'y étais au championnat du monde, mais je ne m'étais pas qualifié pour la finale. Et je remporte la médaille de bronze. Donc là, c'était... je sortais un peu de nulle part, même si j'avais quand même fait des bonnes courses les années d'avant ou cette année-là, mais ça s'était pas vu, quoi. Alors que là, troisième au championnat du monde, la course de référence pour nous, donc là, c'était vraiment énorme. Je sais pas, c'était en Norvège en plus, donc c'est quand même, c'était quand même gros, quoi. C'était à la télé, tout ça, là-haut. Il y avait une conférence de presse, moi, je parlais pas un mot d'anglais. donc c'était vraiment quelque chose, quoi. Et cette année-là, en plus, oui, j'avais fait le championnat du monde universitaire et le championnat du monde militaire. Ouais, donc, j'avais fait un paquet de compétitions cette année-là. J'avais remporté des médailles aussi là-bas. Enfin, bref, c'était vraiment l'année où
grosse année.
Aussi, donc, et ça venait un peu. C'était vraiment surprenant parce que les années d'avant, voilà, j'étais vraiment sérieux tout ça, mais j'avais rien réussi de comme ça, de tel. Donc, c'est sûr que ça m'a motivé pour la suite. Ça m'a ouvert des portes.
Et quel accomplissement tu trouves dans cette pratique, Frédéric? Autrement dit, pourquoi est-ce que tu cours?
Et franchement, en course d'orientation, déjà, on se lâche jamais parce que c'est tout le temps différent. Donc, à chaque fois, si possible, chaque entraînement, mais c'est pas le cas, mais en tout cas, chaque course, c'est un nouveau terrain, une nouvelle carte. Et en tout cas, chaque fois, c'est un nouveau terrain, c'est un nouveau circuit. Donc, on n'a jamais, on n'est jamais allé voir les balises ou les points sur la carte. En tout cas, on n'est jamais allé le voir dans le même ordre ou on n'a jamais fait le même circuit. Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est motivant. Et aussi, quelque part, dans la même idée, on peut toujours progresser, quoi. Il y a toujours des choses à faire améliorer. Et aussi, par exemple, les championnats du monde ou les compétitions importantes qu'on prépare, elles sont en principe jamais au même endroit. Donc du coup, donc tous les années, on se prépare à fond pour un championnat du monde. Mais on l'avait passé, c'était en Norvège. On a passé quand même beaucoup de temps en Norvège. L'année prochaine, c'est en République tchèque. On va passer beaucoup de temps en République tchèque. Celle d'avant, c'était en Lettonie. Et donc, des fois, on se sent même. C'est pour ça que je dis, on est un peu. Moi, je suis un peu nomade, mais je pense tous les orienteurs. Et des fois, quand on est dans un pays pour plein de semaines, soit avec l'équipe de France, soit des fois on y va tout seul, quoi. Et ben, on se sent. C'est une nouvelle maison, quoi.
Petite séance d'autodiagnostic, Frédéric, est-ce que tu pourrais nous parler de tes points forts et de tes éventuels points faibles ou des zones d'amélioration que tu as identifiées ?
Ouais, il y a beaucoup de points faibles, et puis on y travaille tous les jours, on va dire. Ouais, je sais pas trop par quoi commencer, mais je pense que peut-être je manque un peu de patience, et en tout cas, quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup tendance à me précipiter. Et du coup, entre autres en course d'orientation, si on fait pas les choses dans l'ordre un peu méthodique, et puis, comme il faut, on va droit dans le mur, quoi. On fait des fautes, on se perd, des choses comme ça.
Donc ça demande beaucoup de calme.
Ouais, quelque part, ouais, ouais. Donc, je pense que c'était un de mes gros défauts que j'essaie de progresser, mais qui est toujours, il y a toujours de quoi faire. D'un autre côté, donc je pense que je suis très optimiste, mais peut-être trop des fois. Donc, peut-être que justement, je vais me lancer en me disant « Ah, oh, ça va le faire », et puis en fait, ça ne le fait pas. Il faut être un peu plus carré, donc voilà. Et puis, je pense que je suis bien volontaire. Donc, je n'ai pas de souci à me mettre au boulot ou quelque chose comme ça.
C'est un gros sujet, la partie mentale, la dimension mentale dans la course d'orientation et notamment dans ces épreuves qui peuvent paraître peut-être plus courtes que d'autres. Est-ce qu'il y a aussi cette grosse dimension psychologique et confiance et détermination qui est présente constamment?
Oui, carrément. Bah, à la fois, quand c'est long, ça sera un peu différent. Ça sera peut-être plus de l'endurance de concentration ou alors il y a des moments où on pourra se relâcher un peu si on est sur des mains courantes qu'on appelle, sur des chemins, des choses comme ça. Mais par contre, il faudra bien se remettre concentré. Et puis après 1h30 de course, des fois, on a tendance à un peu se laisser aller. Et en fait, c'est là où ils vont mettre, bien sûr, le traceur, il va nous mettre des pièges. Il va mettre des postes un peu techniques à ce moment-là, des balises un peu techniques. Et donc, c'est là où il faudra être vraiment concentré, bien passer par les points de passage, tout ça. Donc oui, et après, sur le plus court, c'est sûr, comme c'est tellement intense, il faut être concentré tout le temps, quoi. Je pense la grosse difficulté en course d'orientation, c'est quand on voit du monde. Parce que c'est vrai qu'on a, comme on court tout seul sur notre circuit, ça perturbe de voir d'autres gens. Et des fois, on les voit, des fois, on rattrape les gens de devant, des fois, on se fait rattraper ou on les croise. Et ça peut bien perturber, ouais. Donc, faut bien rester lucide.
Est-ce que tu pourrais nous parler des spécificités de la vie en Finlande, alors que ce soit en termes de rythme de vie et puis évidemment les conditions peut-être de froid et de luminosité en hiver qui, j'imagine, ont un impact important sur ta pratique sportive et sur ta vie au quotidien? Qu'est-ce que ça change?
Ouais. J'avoue que entre autres là, la période qui arrive, c'est pas la plus drôle de l'année. Octobre, novembre, décembre, comme c'est plus bien plus au nord, en fait l'hiver il va faire nuit tout le temps, quoi. Mettons, moi j'étais au sud-ouest, je suis toujours au sud-ouest de la Finlande, donc c'est quand même assez bas. Peut-être que la nuit elle va tomber vers 3h de l'après-midi, 3h30 de l'après-midi, et le jour il va se lever, je sais pas, 9h quoi le matin, 9h30 peut-être. Donc ça fait pas une grosse journée, ouais. Et il suffit qu'en plus souvent il fait un peu humide ou un peu couvert à cette période, donc là là tu vois jamais le soleil, quoi.
C'est pas, ça veut dire que les entraînements drôle. Tu dois ajuster, tu dois courir plus tôt dans la journée ou est-ce que tu cours de nuit quasi systématiquement quand c'est l'hiver?
L'intérêt d'avoir un boulot flexible, c'est quand même bien d'y aller un peu la journée, juste pour histoire de voir un peu le soleil, quoi. Mais sinon, pour entre autres la présentation, c'est intéressant de faire de l'entraînement de nuit parce que en fait faut être plus précis. Si on court de nuit, ça zoome les erreurs, en fait. Parce que deux jours, on va se rattraper sur quelque chose, mais de nuit, on se rattrape sur rien parce qu'on voit rien. Donc c'est intéressant de faire des entraînements de nuit. Et mais après, donc ça pose pas trop de problèmes pour l'entraînement. C'est juste pour le moral, quoi. C'est pas drôle. Mais après, par contre, souvent ça vient quand même froid et des fois il neige un peu, mais ça fond, ça reneige, ça fond. En particulier là où je suis, parce que c'est proche de la mer, donc c'est des températures qui sont pas top parce que c'est proche de zéro. Alors que plus au nord, plus à l'est, là il fait moins 10 tout le temps et on n'en parle plus, quoi. Mais donc là où je suis, en particulier quand ça commence à neiger un petit peu, et en fait les gens ils marchent sur les chemins, tout ça, sur les routes aussi, mais ouais, et du coup ça tasse la neige et en fait ça fait de la glace, et comme il fait froid, elle reste la glace et du coup c'est glacé de partout, et ça c'est quand même pas drôle pour courir parce que c'est bien glacé de partout. Donc sur les trottoirs, tout ça, ils mettent des graviers, mais en forêt bien sûr ils mettent pas de gravier de partout. Donc nous on peut courir avec des petits picots métalliques. Donc ça, c'est ce qu'on utilise en course d'orientation. Mais c'est quand même pas, c'est pas l'idéal pour les pieds. Ouais, ouais. Après, ils ont des halls, des pistes d'athlétisme qui sont à l'intérieur. Donc du coup, des fois, on fait des séances à l'intérieur, des choses comme ça. Mais bon, c'est sûr que c'est, l'hiver, c'est quand même pas évident.
Eh bien, écoute, merci beaucoup Frédéric. On va passer désormais à notre séance de la basket chinoise, qui est un format de portrait chinois version sportive, qui va nous permettre de continuer à mieux te connaître. Pour commencer cette basket chinoise, est-ce que tu pourrais nous dire, si tu étais un personnage de fiction, qui serais-tu ?
Je sais pas si c'est par rapport à ma personnalité, mais en fait, à l'INSA, au début de l'INSA, on était deux orientants dans la classe de sport-études. Et le deuxième, il était relativement petit et roux. Et du coup, il l'appelait Spirou et moi, Fantasio, parce que je suis assez grand et blond. Donc voilà, donc Fantasio, je dirais. Mais je avoue, je connais pas trop sa personnalité, mais peut-être un peu aventurier, qui essaie de résoudre des problèmes autour du monde ou je sais pas trop quoi. Et peut-être un peu maladroit sur certains côtés. Donc, ça pourrait peut-être me...
Ouais, c'est l'image que j'en ai aussi, ouais, ouais, effectivement. Maladroit, Spirou est plus raisonné, effectivement.
D'accord, oui.
Et si tu étais un animal, quel serait-il ?
La grenouille.
Réputée très forte en course d'orientation.
Oui, voilà, qui saute de partout. En fait, en Australie, ben, ils ont des petits chocolats qui s'appellent Fredo the Frog.
D'accord.
Donc, quand je me présentais, entre autres, ben, quand j'enseignais dans les écoles et tout, je disais « Ah ben, je m'appelle Fredo ». Et puis là, ils se marraient tous, les gamins. Oh, comme
le français en plus de Frog, c'était parfait.
Ouais, voilà. Puis en plus, ouais, là, j'ai quelques photos dernièrement où j'ai sauté un peu comme une grenouille. Donc voilà, ça va pas si mal.
Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui suscite une certaine forme d'admiration chez toi ?
Ouais, ben, bon, j'ai déjà parlé des orienteurs, de Thierry et tout. Mais je dirais dans les gens connus, je dirais Martin Fourcade. Bon, il est à peine plus âgé que moi, donc j'ai vu toute sa carrière. Donc voilà, ça, c'était vraiment motivant. Entre autres, bah, quand il gagnait des courses l'hiver et tout, nous, quand c'est notre entraînement hivernal, on est super motivés après. On le voit gagner, on n'a pas de souci pour aller courir deux heures.
Je vais faire comme lui.
Dans la neige, quoi. Ouais, voilà. Et puis voilà, j'aime bien son idéologie. Entre autres, il a acté pour le sport propre, quoi. Des choses comme ça. Donc, ouais, c'est.
Quelqu'un
je
de
pense que c'est quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup, ouais. Bon, il a la retraite, mais ouais.
Eh bien, écoute, merci beaucoup Frédéric. On va maintenant parler de ta course épique sur Zinal et plus particulièrement de cette dernière édition qui s'est tenue au mois d'août et septembre dernier. Pour présenter brièvement cette course, Sir Zinal s'est considérée comme l'une des plus belles courses de montagne au monde. Elle est aussi la doyenne des grandes épreuves de montagne en Europe. Ses paysages exceptionnels, son ambiance chaleureuse et son organisation soignée expliquent son succès et sa longévité. Cette course, elle est située au cœur des Alpes Valaisannes, en Suisse, et elle présente un parcours très engageant, 31 km pour 2200 mètres de dénivelé positif et 1100 mètres de dénivelé négatif. Elle relie la ville de Cire au village de Zinal par le versant du Val d'Anivier. Elle est organisée annuellement la deuxième dimanche d'août. Enfin, ça, c'est habituellement. 2020 a été évidemment une année un peu spéciale pour ça. On l'appelle aussi la course des 5-4000, du nom des 5 montagnes qui culminent à plus de 4000 mètres d'altitude qui sont visibles le long du parcours. Et cette course, elle a la particularité d'être ouverte à toutes et tous. Ainsi, les sportifs amateurs sont invités à participer dans la catégorie touriste et côtoient de près le gratin des coureurs élites mondiaux. En 2018, la course, elle rejoint le calendrier de la Coupe du Monde de course en montagne, ainsi que la première saison de la Golden Trail World Series. Et lors de l'édition 2019, c'est Kylian Jornet qui a encore frappé pour la 8e fois, je crois, et Maud Mathis chez les femmes qui remportent la victoire en établissant chacun un nouveau record du parcours. Cette édition 2020, elle est un peu particulière. Elle était prévue initialement le 9 août. Elle a été reportée au 13 septembre en raison de la pandémie de Covid-19. Donc les organisateurs ont décidé de mettre en place un format spécial de course sur un mois, du 17 août au 18 septembre, avec un départ à la carte pour les inscrits et sur un parcours qui a été légèrement modifié. Puis l'idée, voilà, c'était que les coureurs élites prenaient le départ le dernier jour de la compétition, le 18 septembre, avec cette année donc à nouveau Kylian Jornet et Maud Mathis, les tenants du titre, qui sont sur la ligne de départ de cette édition 2020, vraiment pas comme les autres. Avant que tu ne partages avec nous le récit de ton épique Sir Zinal, Frédéric, petit passage obligé par notre rubrique, la question qui pique de course épique. Une question très gentiment piège que je pose à mes invités. Alors, c'est une grande première pour toi pour cette question qui pique, avec cette fois non pas une question de culture générale, mais une énigme. Et celle-ci va mettre à contribution ta logique et ta connaissance des points cardinaux. Je pense que c'est un domaine que tu maîtrises assez bien, donc je pense que c'est tout à fait adapté pour toi. Voilà cette question qui pique sous forme d'énigme. Un homme quitte sa maison tout droit en direction du sud. Il va ensuite tout droit vers l'est, enfin tout droit vers le nord. Et là, il s'aperçoit qu'il est revenu exactement à son point de départ. Comment est-ce possible ?
Donc, il est parti au sud ?
Il est parti au sud, tout droit. Il a tourné ensuite à l'est, tout droit. Ensuite, il est remonté plein nord. Et là, à un moment, il revient à son point de départ. Comment cette situation est-elle possible ? Quel est le cas particulier dans lequel cette situation peut se produire ? Pas facile.
Est-ce qu'il était... Il était près d'un pôle ou pas ?
Exactement, exactement.
Ah, okay.
Très bonne réponse. Eh ben, okay. Il vit au pôle Nord, c'est la bonne réponse, Frédéric, bravo.
Ah, ok.
Parce qu'effectivement, quiconque sur Terre décidant de toujours suivre la direction du Nord va nécessairement passer à un moment par le pôle,
Bah oui.
Soit son point de départ, quel que soit l'endroit vers lequel il se dirige, s'il va au nord, il va à un moment tomber sur le pôle nord. Le seul cas possible pour lequel il puisse à coup sûr, après avoir pris la direction du sud et l'est, puis le nord, et retombe sur son point de départ, c'est que sa maison soit située au pôle nord. Bravo, ah bon, franchement, je suis très très fier de toi, et c'était pas si simple. Bon, allez, cette fois, on va parler de ta course épique mémorable à Sierzinal. Est-ce que tu peux nous raconter à quel moment et dans quel contexte tu as pris la décision de participer à cette édition 2020?
Bon, en fait, c'était simple parce que j'ai eu un peu de la chance, je me suis invité, entre autres, je pense, avec les conseils de Mathias Kibourse, donc c'est un des meilleurs orienteurs du monde et aussi en Suisse, un des meilleurs trailers, je pense. Et il était élu, il a couru, il a fait déjà des bonnes places et tout ça. Et bref, je sais pas comment, mais bref, les organisateurs m'ont contacté, ils ont dit que c'était parce que Mathias Kibourse avait dit que voilà, je serais intéressé, et bien sûr, j'étais intéressé. Donc du coup, dès, je sais plus, février ou mars, et en fait, avec le calendrier de présentation, ça jouait, ça tombait entre des compétitions, donc voilà, ouais, j'avais déjà décidé.
Ça tombait plutôt bien, tout était bien aligné avec tes calendriers, ce qui n'était pas forcément le cas les années précédentes, effectivement.
Voilà, c'est ça, oui.
Et est-ce que cette course, elle représentait quelque chose de particulier pour toi? Est-ce qu'elle avait une certaine forme de dimension mythique?
Ouais, carrément. Bon, après, moi, je suis un minimum le sport et entre autres les sports nature, tout ça. Et c'est sûr que la Sierzinal, ça ressemble. C'est une course qui ressortait souvent. Et voilà, avant, j'avais pas non plus trop regardé qu'est-ce que c'était exactement, où c'était, tout ça. Mais c'est vrai que les dernières années, François Gonon, un des orienteurs, il a fait vraiment une bonne place. Il avait dû faire quatrième. Il était juste derrière Kylian Jornet et tout. Et puis, Marc Lundstein, il avait même gagné. Mais ça, c'est il y a un petit peu plus longtemps. C'est un orienteur suisse. Et puis surtout, peut-être pas surtout, mais l'année passée, la course se déroulait, je pense, pendant le championnat du monde, il me semble, ou la semaine. Et c'est vrai qu'on l'avait regardé, ou en partie, quoi. On avait regardé le suivi live. Et ouais, c'est vrai que je m'étais dit, ça serait cool d'y aller une année, quoi. Enfin, vraiment. Et puis voilà, donc c'est peut-être arrivé même plus vite
que je pensais. Ça s'est bien goupillé, ouais.
Ouais, voilà, ça s'est bien goupillé, ouais.
Et est-ce que tu avais mis en place une préparation spécifique pour cette course? Qu'est-ce qu'on doit changer, en fait, dans sa prépa d'orienteur pour s'aligner sur ce type de course? Est-ce qu'il y a des choses qu'on change, d'ailleurs? Comment tu t'es mis en branle spécifiquement pour cet objectif?
Comme la saison de présentation a été annulée, en fait. Enfin, en gros, petit à petit, ils ont annulé les championnats du monde, les étapes de Coupe du monde, tout ça. Voilà, il y avait moins d'objectifs de présentation. Donc, c'est vrai que ça m'a motivé d'avoir d'autres objectifs. Et là, j'étais vraiment content que les organisateurs de la Sierzinal, déjà, ils mettent tout en place pour l'organiser. Et voilà, c'était vraiment chouette. Hein. Et donc, dès le printemps, je dirais, l'automne en Australie, d'ailleurs. Donc là, j'ai fait un peu des sorties longues et tout pour me dire, ça sera des bons entraînements pour la Sierzinal, mais à la fois, parce que c'est des entraînements qui me font marrer, quoi. J'adore ça, quoi. C'était aucune contrainte pour moi, je dirais. Et après, quand j'étais en Finlande, là, c'était à peine plus délicat. Bon, déjà, j'avais commencé un peu à travailler, mais bon, voilà. Et surtout, il n'y a pas trop de grandes montagnes. Donc là, bon, j'ai fait une ou deux séances, on va dire, à côté du tremplin de Suwalski et puis de toute la piste d'atterrissage. Donc là, je faisais des montées-descentes. Donc une fois, j'ai essayé de faire 1000 mètres. En fait, il fallait faire 24 montées, je crois. Okay. Donc voilà, c'était pas le plus idéal, on va dire. Mais voilà, après...
On compose avec les éléments qui nous entourent.
Exactement, oui. Et après, en fait, l'été, je m'étais motivé pour faire le championnat de Finlande d'athlétisme, et en particulier de 10 000 mètres, ouais, parce que c'était à domicile, en fait. Voilà, donc ça, j'ai fait plus une prépa, j'ai fait quelques semaines, en tout cas, un peu plus avec ça comme focus, quoi. J'ai pas couru beaucoup sur la piste, même si c'était sur piste, mais surtout faire séance plus de seuil, tout ça, pour essayer de m'améliorer un peu sur le 10 000 mètres. Et je pense que c'était pas si mal pour la Sierzinal, parce que bon, il y a la grosse partie de montée, et je pense que je suis pas trop mal à monter, donc voilà, jouer un peu sur mes qualités. Après, la partie plus plate, et là, je pense que c'était plutôt bénéfique pour moi de faire cette prépa 10 000 mètres, où voilà, j'essaie de m'améliorer sur ce type d'effort. Et puis la descente, de toute façon, c'est la fin, donc il faut juste arriver en bas, quoi. Et ouais.
Et dans quel état d'esprit et dans quelle disposition physique tu te sens à l'issue de cette phase de préparation? Est-ce que tu as l'impression d'être super bien et d'avoir fait exactement ce qu'il fallait? Tu te sens très alerte, même si parce que tu racontes que la saison avait été annulée, tu es quand même, tu as l'impression d'avoir bien fait les choses et d'être, je ne sais pas si c'est au sommet, mais en tout cas très bien.
Si, après, j'ai eu des soucis de blessure un peu au printemps, donc, mais bon, ça ne m'empêchait pas de m'entraîner. Je faisais beaucoup de vélo quand j'étais en Australie, donc c'est en avril-mai, tout ça. J'ai fait énormément de vélo parce que j'avais des petits soucis de blessure. Et voilà, donc, mais à la fois, je faisais beaucoup de volume, donc ça ne m'inquiétait pas trop. Puis je gardais quand même un peu de musculation, des choses comme ça, quand même de la course à pied. En général, je pense que j'ai bien gardé une bonne forme, donc je ne m'inquiétais pas trop. Après, ce qui m'inquiétait plus, c'était l'aspect musculaire, donc faire des grosses montées, des grosses descentes. Mais du coup, j'étais quelques jours avant chez mes parents, où là, il y a des bonnes côtes dans le Pilat. Donc là, j'ai fait un petit petit peu de montée-descente, essayer de bien récupérer. Et puis voilà, j'étais. Ouais, je me suis dit, je vais faire ce que je peux. De toute façon, j'avais aucune pression puisque bah, c'était mon premier essai. Déjà, on courait un peu tout seul. De toute façon, c'était, c'était contre la montre, comme en présentation d'ailleurs. Et voilà, donc si au pire, j'étais nul, ben, personne ne l'aurait vu. Puis si je suis bon, bah voilà, là ça s'est un peu plus vu, mais c'est
ça
pas.
Ça s'est effectivement pas mal vu, effectivement, ça a marqué les esprits beaucoup. Donc là, on est fin août 2020, tu prends la direction du village de Sierre en Suisse. Est-ce que tu pars là-bas tout seul ou est-ce que tu as des partenaires de course que tu vas retrouver et qui vont s'aligner avec toi sur Sierre-Zinal?
Ouais, ben du coup il y avait deux autres orienteurs, donc Loïc Capberne et Quentin Moulet, qui étaient aussi inscrits sur la course et je sais plus comment ça s'est fait, mais bon bref j'ai dû dire que j'y allais et ils étaient aussi inscrits, donc du coup on y allait ensemble, donc c'était nickel quoi, on a fait le voyage ensemble. Et en fait donc le sponsor des chaussures qui me supporte, Envy, il voulait bien nous supporter le voyage, donc l'idée c'était de faire des vidéos avant, donc les deux jours avant on a checké un peu le parcours, donc on a fait un peu des tronçons du parcours et puis aussi on faisait des petites vidéos, tout ça. Donc, les deux jours avant, on était là-haut. Bah, c'était chouette. Hein. C'était vraiment chouette. Après, on ne s'est pas non plus reposé. Enfin, si, on a essayé de pas trop en faire, mais bon, quand même, on a un petit peu crapahuté. Et puis voilà, on a vu un peu le parcours. Donc, on savait à peu près à quoi nous attendre.
Est-ce que tu avais travaillé un plan de course spécifique et étudié notamment les différents chronos intermédiaires tout au long du parcours pour jauger ta performance au fur et à mesure de celle-ci?
Ouais, enfin, en tout cas, bah, Quentin, le jeune, là, justement, il avait récupéré un fichier Excel, je sais pas trop comment, et puis il l'avait adapté en fonction de notre temps estimé, quoi. Donc voilà, donc moi, je savais pas combien j'allais mettre de temps, mais je pensais que j'allais être pas trop mal, donc je savais pas, une heure. Je me suis dit, allez, 1h35, 1h40, ça devrait pas être mal en regardant les autres qui avaient couru. Du coup, voilà, ça nous donnait des temps intermédiaires. Sauf que j'avoue, pendant la course, je savais plus trop où j'en étais, et puis je savais pas exactement où ils étaient, et puis je les avais juste mémorisés comme ça, donc en fait, ça m'a pas non plus.
Ça n'a pas influencé vraiment ta gestion de la course.
Ça m'a pas trop influencé. Non, pas tant que ça. Après, lui, ça l'avait un peu plus influencé, mettons, parce que déjà, au départ, il avait dit, ah ouais, faut qu'on. Lui, il est parti 7 minutes, en gros, avant Loïc et moi, et il avait dit, ah ouais, on se rattrapera sur la partie plate, au moins ça sera bien, on court un peu ensemble, tout ça. Bon, ça, du coup, j'ai rattrapé un peu plus tôt que prévu, mais voilà, ça. Je sais pas si ça a changé grand-chose, en tout cas pour moi, pas grand-chose, je pense, ouais.
Est-ce que tu peux nous parler de l'organisation de la course cette année-là, puisque comme on l'a expliqué, c'était une course un peu particulière et qu'elle s'étendait finalement sur un mois. Comment est-ce qu'était organisé les départs? Est-ce que n'importe qui pouvait partir tous les jours, à n'importe quel moment? Est-ce qu'il y avait des ravitaillements sur place? Comment tout ça a été structuré dans ce format un peu spécifique 2020?
Et ben du coup bah déjà fallait t'inscrire sur un mois et donc fallait s'inscrire sur un des jours de ce mois-là pour partir. Et je suppose, enfin si j'ai bien compris, par exemple les week-ends ils étaient bien pris, on pouvait plus s'inscrire. Donc je suppose il y avait un quota quoi, une limite de personnes par jour. Donc ensuite les départs en semaine c'était de 6h à 8h, donc il y avait des volontaires au départ, et les week-ends de 5h à 8h je crois. Et donc il y avait des volontaires au départ pour ça. Après il y avait un point de ravitaillement, donc ça s'appelle Chandolin. Donc c'était en gros après la grosse montée, donc pour moi en gros après 1h10-15 de course. Et donc là il y avait un ravitaillement des volontaires jusqu'à ce que tout le monde soit passé, je suppose. Et puis voilà, après il y avait deux points où on pouvait prendre de l'eau, mais j'avoue je les ai même pas vus, donc je sais pas, je pense que c'est des points où il y a toujours de l'eau. Et puis après à l'arrivée, pareil, il y avait quelques volontaires à l'arrivée tous les jours. Donc ouais, c'est une belle organisation d'ailleurs qu'ils ont fait. C'est assez impressionnant.
Et cette année, ils avaient modifié le parcours au départ ?
Oui, en fait, si j'ai bien compris, il y a toujours deux parcours. Donc, il y a le parcours qu'ils appellent élite ou coureur, où ils démarrent sur la route. Donc là, il faut qu'ils ferment la route, tout ça. Et le parcours qu'ils appellent touriste. Ouais. Et en fait c'est juste vraiment la première partie. Donc, les touristes, ils partent un peu tout de suite dans la montagne, dans la forêt. Et le parcours coureur, il part sur la route d'abord. Et après, ça rejoint un peu plus haut, en fait. Donc en gros c'est à peu près kiff, c'est à peine plus long je pense le parcours coureur, mais bon ils font peut-être 500 mètres sur la route, donc au final en temps je pense que ça doit être assez similaire. Cette année ils ne pouvaient pas fermer la route bien sûr, donc tout le monde partait sur le petit parcours touriste.
C'est un format de course qui est plus long que ce que tu as l'habitude de pratiquer en course d'orientation, puisque tu nous disais tout à l'heure que les formats les plus longs en course d'orientation c'était plutôt construit pour durer 1h30 à 1h40. Est-ce que ça suscite chez toi d'éventuelles interrogations sur ta capacité d'être compétitif sur une course aussi longue que peut l'être Sierre-Zinal, qui est plutôt pour ceux qui performent très bien autour de 2h30?
Ouais, carrément. Bah, franchement, avant la course, je me retrouvais comme un débutant, quoi. Donc déjà, je savais pas trop comment m'habiller, comment me chausser, tout ça. Qu'est-ce qu'il faut prendre, les gels, tout ça. J'avais même pas de gel. C'est les jeunes qui ont dû m'en prêter pour dire. Et est-ce qu'on prend une flasque d'eau? Est-ce qu'on la remplit? Est-ce qu'on la remplit pas? Tout ça. Donc ouais, non, j'avoue. Moi, je me retrouvais un peu comme un débutant. Après, je suis assez, je sais pas comment dire. Je suis un mec qui lâche pas trop. En principe, je lâche rien. Donc. Mais oui, donc non, je savais pas si j'allais tenir jusqu'au bout, j'avoue.
Mais ça voilà, t'inquiétait donc, pas plus que ça.
Ben non, moi je suis de nature à pas trop m'inquiéter. Donc je me dis, je m'élance. Et puis voilà, si ça fait pas, ça fait pas, tant pis.
Au moment de t'élancer, tu as très étonnamment une cote ITRA de zéro. Quelle ambition tu t'étais fixée au moment de prendre le départ ? Est-ce que malgré tout, tu as un peu en tête l'idée de chercher un chrono, tu veux te tester ou c'est vraiment juste prendre du plaisir et essayer de te frotter à Cyrzinal ?
C'était la course qui me motivait depuis des mois déjà, on va dire. Et puis, je savais bien que je pouvais être pas trop mal, quoi. Après, voilà. Donc, je ne savais pas si je pouvais être pas trop mal en, je sais pas, 2h40, 2h45 ou pas trop mal en 2h33. Donc, c'est sûr que c'est... Enfin, j'avais aucune idée. Et après... Donc, je ne dirais pas que j'avais trop d'ambition de faire un résultat. Mais par contre, j'avais vraiment envie de faire un bon chrono pour moi, quoi, une bonne performance. Et puis oui, quelque part, déjà, ça faisait des années que je voulais m'élancer sur ce type de course. Tout ça. Et à chaque fois, j'étais tellement impliqué avec la course d'orientation. Je voulais faire les choses bien. Quoi. Donc, je me suis dit, ah non, c'est pas optimal dans le calendrier. Ça se fait pas. Quoi. Ou alors, des fois, c'était même pas jouable. Mais quand même, ça faisait des années que je me disais, ah, je pense que je suis pas mal, mais voilà, j'ose pas. Quoi. Et du coup, là... je me suis dit, oui, j'aimerais bien faire bien et aussi pour savoir si je suis bon dans ce type de course et voilà, si je peux en faire plus. Quoi. Donc si, dans ce sens, ça me motivait.
Et est-ce que tu as l'impression de prendre le départ d'une véritable course, entre guillemets, compte tenu de ce contexte si particulier ? Est-ce que ce format qui est un peu étendu sur un mois, avec peut-être moins de partants tous les jours, est-ce que c'est pas trop déstabilisant ou est-ce que ça a un impact même sur la motivation ? Est-ce que ça change quelque chose ?
D'un côté, comme je faisais ça pour moi, on va dire, pour voir où j'en étais, tout ça, ça m'a pas trop impacté. Deuxièmement, en course d'orientation, comme en cours, on part au contre-la-montre, on part tout seul. Donc, d'un autre côté, ça aussi, je sais à peu près comment gérer mon effort, je suppose, même si là, c'était plus long que prévu, enfin, plus long que d'habitude. Et je sais pas. Après, c'est sûr qu'il y a du monde autour, je pense que ça motive encore plus. Mais là, j'étais suffisamment motivé pour me donner à fond, quoi.
On est le jour J. Quentin, ce que tu nous racontais tout à l'heure, un de tes deux partenaires de course a pris le départ 7 minutes avant toi. Tu t'élances quelques secondes derrière Loïc, par lui aussi à l'assaut de Cyrzinal devant toi. Est-ce que tu peux nous parler de ce début de course avec un enchaînement de montée notamment et une montée très abrupte qui va jusqu'au pâturage de Ponchette et situé au kilomètre 8 où vous avez déjà 1300 mètres de dénivelé dans les pattes à ce moment-là. Comment est-ce que se passe tout ce début de course ?
Ouais, je voulais partir sur un bon rythme. Hein. De toute façon, vaut mieux partir un peu fort et parce qu'on rattrape jamais le temps qu'on a perdu. Faut quand même pas se griller. Donc voilà, je suis parti sur un bon rythme avec Loïc au début, puis après il m'a laissé partir, on va dire. J'ai essayé de tout faire en fréquence, donc jamais marché. Donc c'était ça j'étais concentré là-dessus, quoi, on va dire. Donc j'ai essayé de bien monter en fréquence. Tac, tac, tac. Donc des fois c'est bien raide, donc pour maintenir la fréquence, faut quand même se donner, quoi. Donc, j'ai fait ma montée comme ça. J'ai essayé de tenir jusqu'en haut, puis ça a tenu. Donc.
Est-ce que tu peux nous parler du décor qu'il y a autour de toi ? Quel type de paysage tu as ? Quelles sont les conditions ce jour-là ?
C'était le matin, il faisait relativement frais, mais encore ça allait, quoi. Toute la partie basse, c'est bien raide, des petits chemins un peu comme il pourrait avoir chez mes parents, donc rien de très surprenant. Mais c'est vrai que la végétation, elle change quand même assez vite, quoi. Quand on monte plus sur le haut, c'est plus des épineux, tout ça. Et puis donc c'est bien bien raide, donc c'est surtout ça qu'on voit. Donc j'avoue, j'ai pas trop regardé autour, quoi. Tant que ça monte, j'étais plus concentré sur ma montée. Puis après, une fois qu'on arrive plus là-haut, c'est plus plat, on va dire. Ça fait des faux plats avec des grosses pistes déjà. Donc là, l'idée pour moi, c'était un peu d'allonger la foulée, garder la même fréquence, et puis peut-être commencer à m'alimenter un petit peu. Et puis voilà. Après, on arrive assez vite sur le premier ravitaillement, Chandolin. Donc là, j'avais prévu de recharger en gel, mais en fait, il y en avait pas. Et puis prendre un peu d'eau.
Sachant que toi, t'étais parti très léger, en fait, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. T'étais parti avec
quelque chose. J'étais parti assez léger, ouais. Moi, j'avais quand même quelques gels et j'avais une flasque d'eau, mais je sais plus si j'avais mis de l'eau dedans. Si, un petit peu quand même. Ouais, si. Donc j'avais quand même un petit peu bu.
Mais
donc,
de toute façon, tu avais prévu de pas t'arrêter très longtemps à ce ravitaillement à Chandolin au kilomètre 12. L'idée, c'était plutôt de faire un petit passage express.
Oui, voilà, je voulais m'arrêter. Mais après, j'aurais voulu m'arrêter là un petit coup, prendre un petit peu d'eau, un petit peu de gel peut-être éventuellement. Et après, peut-être m'arrêter aux autres ravitaillements, enfin aux autres points d'eau pour recharger peut-être ma flasque justement, que finalement, j'ai pas fait. Et peut-être que ça m'a coûté un peu sur la fin. J'étais vraiment sec à la fin, vraiment un peu asséché et tout ça, oui.
Tu repars du ravitaillement de Chandolin en direction de Tignoussa au kilomètre 16 avec un passage particulièrement redouté qui est l'ascension vers l'hôtel Weisshorn. C'est à ce moment-là que les choses commencent à se corser un peu pour toi. Est-ce que tu peux nous parler ce passage de la course et la façon dont tu l'as vécu ?
Oui, et ben en fait donc la partie après Chandelin, donc là c'est des petits singles vraiment sympas, donc par contre c'est enfin ça descend un petit peu, après ça monte bien tout ça, et donc et là on était passé la veille, donc là on connaissait bien, et après il y avait toute une partie de grosses pistes, et oui donc là j'avoue j'étais un peu dans le doute parce qu'il y avait pas de signe, enfin de panneau ou de marquage pendant un bon moment, mais en fait il y avait qu'une piste, donc il y avait pas de doute, mais c'est vrai que là j'étais là, ah mais j'ai pas loupé le chemin je me posais un peu des questions, en plus c'était faux plat descendant, je dis ah non mais et l'hôtel justement on le voit, il est tout là-haut on le voit de super loin en fait. Et du coup là je commence à me poser des questions. Oh non, je suis en train de descendre, je suis pas sur le bon chemin, c'est pas ce qu'il faut faire. Et puis non, après une fois qu'on quitte la grosse piste, là on reprend des petits chemins qui sont relativement, enfin il y a des parties assez techniques avec des rochers tout ça, et surtout ça remonte relativement raide après une partie de plat et tout ça, et puis bon là ça fait déjà je sais pas combien de temps qu'on est parti, mais 1h30 facile. Et du coup bah là ouais, là j'ai eu un coup de moins bien sur la petite remontée de l'hôtel. Et là, ça m'a rappelé, donc la veille, on regardait un peu les courses, des vidéos des années précédentes, entre autres l'année passée, ils avaient fait une vidéo, ils avaient interviewé une star des années 80, je pense, un mec qui a gagné des courses de la Cierzinale à cette période-là, et puis il expliquait, là, si tu pars trop fort, c'est la montagne qui gagne. et puis je sais plus comment il disait, et puis après, il montrait là, vers l'hôtel de Westhorn. Là, c'est l'endroit le plus dur de la course. Je sais plus comment il racontait ça. Et là, ça m'a rappelé ça. Je me suis dit, oula, là, je suis en train de craquer complet.
C'est la montagne qui va gagner.
Ouais. Ouais, exactement. Donc là, je me sentais pas bien du tout.
Et c'est lié aussi peut-être en termes d'alimentation et d'hydratation. Est-ce que ça a pu jouer aussi sur ce passage-là? Est-ce que tu as souffert aussi
ouais,
de ça?
Oui, je pense, oui. Donc il me restait un gel au fond de ma poche et j'étais bien content de le retrouver. Donc là, c'est sûr que j'étais pas bien. Mais bon, après, je savais que je connaissais bien le profil quand même. Je savais que la suite, c'était du plat, allez, et puis la descente finale. Donc je me suis dit, allez, il faut juste passer ce petit tronçon et après, ça ira. Et entre autres, je pense la préparation 10 000 mètres m'a un peu aidé dans la tête. Parce que je me souviens, un copain qui se prépare bien pour le 10 000, tout ça, il m'avait dit, ouais. Donc les 6 premiers kilomètres ou quoi, bon là c'est bien sûr c'est jamais relax, hein, mais c'est ça va quoi. Mais après il y a le 7 et le 8e kilomètre, là c'est l'enfer. Faut juste les passer quoi. Faut juste serrer les dents, faut juste survivre. Et après la fin, bon ça va, il reste 2 kilomètres ou quoi, tu t'en sors quoi. Et du coup là je me suis dit là c'est pareil. Là c'est les 2 kilomètres ou quoi qu'il faut, les quelques kilomètres, faut serrer les dents en haut et puis faut regarder devant soi et faire un pas après l'autre et puis passer ce moment-là et puis après ça va aller quoi, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai essayé de tête dans le guidon on va dire.
Ça t'a servi, cet enseignement-là du 10 000 t'a servi en tout cas pour gérer ta course, t'as fait
ouais.
Le parallèle avec cette version
un peu ouais. En tout cas j'y ai pensé ouais.
Et donc là une fois que tu passes l'hôtel Weisshorn puis Navaille, se profile la perspective d'un faux plat descendant puis d'une descente assez technique vers Zinal pendant 7 km. L'exercice n'est pas si simple qu'il n'y paraît.
Ouais, en fait la partie plate je pense j'ai bien couru et après la descente je trouve qu'elle est pas si technique, nous on a l'habitude de courir en forêt aussi, donc voilà, mais par contre elle est hyper raide et puis longue, enfin ouais si longue, du coup là franchement je savais pas sur quel pied danser, bon après je sais pas si quelqu'un sait, mais parce que ouais c'est raide et du coup faut quand même freiner, ouais j'avoue là c'était pas du tout confortable on va dire, et ouais j'étais quand même content d'arriver en bas j'avoue, même si c'est joli la descente elle est longue quoi.
Il fallait que ça s'arrête, donc tu rejoins ouais. L'arrivée sans encombre, est-ce qu'il y a des choses spécifiques à l'arrivée, est-ce qu'il y a du public qui est là pour vous accueillir ou c'est une arrivée qui se fait de façon plutôt confidentielle?
Ouais, c'est assez confidentiel, on va dire. Il y avait quelques, je sais plus s'il y avait des coureurs ou pas qui étaient partis avant. Non, peut-être pas, mais en tout cas, il y avait quelques organisateurs. Et entre autres, il y avait un organisateur qui arrivait avec une caméra, donc il m'a interviewé assez tôt après mon arrivée. Et là, j'arrivais même pas à parler, j'étais tellement sec, ma glotte, elle se collait dans ma gorge. Mais bon, bref, c'était pas complètement confidentiel. Voilà.
Et donc là, tu nous le dis pas, mais tu fais quand même un chrono assez hallucinant, qui est jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, la meilleure performance française jamais réalisée à Cierzinal. Est-ce que toi, tu réalises à ce moment-là que tu as fait un chrono de dingue? Est-ce que tu as été surpris finalement du niveau que tu as pu délivrer sur cette course-là?
C'est déjà j'étais content d'y être arrivé et puis non j'étais content du temps que j'avais fait, je me disais ah ouais c'est bien, je suis pas mal quand même. Après je connaissais pas, j'avais pas en tête d'ailleurs c'était François Gonon qui avait le meilleur temps jusqu'à là, j'avais pas en tête son temps, je me rendais pas compte. Après je savais que Kylian il avait fait 2h25 quelque chose comme ça ou 2h26 l'année passée, donc là je savais que j'étais quand même un peu loin, mais bon non après j'étais vraiment content, satisfait de ma course, j'étais content d'y être arrivé, d'avoir suggérer mon effort, même si j'en avais chié. Quelque part, le fait d'être parti fort, c'est ce qui avait donné mon temps comme ça. Après, si j'avais su que j'allais en chier comme ça, peut-être que je serais parti moins fort, j'en sais rien. Mais bon, au final, c'était mieux comme ça pour le temps. Donc, j'étais content. Après, voilà, sans faire péter le champagne, on va dire.
Est-ce que tu savais à ce moment-là que c'était le meilleur temps, le meilleur chrono depuis le début de la compétition?
Oui, parce que je pense qu'on avait regardé ça quand même. Il n'y avait pas de temps en dessous de 2h45 ou chose comme ça, donc oui.
Si tu devais retenir un moment de cette Cyrzignale, ce serait quoi?
Je pense justement, peut-être la partie après l'hôtel, là où j'étais vraiment dans le mal. Après, j'ai eu une partie, là, je me suis dit, ah, c'est bon, là, je suis sauvé, quoi. Et c'est vrai que là, on est sur les replats. Il y a quelques parties avec des cailloux, mais sinon, c'est assez roulant. Et puis, voilà, on voit les montagnes. Et puis là, il faisait super beau. C'était vraiment sympa. Donc, c'est la course des, comment ils appellent ça, des 5-4000. Donc, il y a 5 sommets à plus de 4000 mètres autour. Bon, j'avoue, j'ai peut-être pas trop regardé, mais quand même, j'ai dû jeter un petit coup d'œil. Non, là, j'étais content. Puis, on voit la vallée. Je pense, on devine Zinal au loin. Donc, là, c'est bien, quoi. Déjà, le sentiment de, ah ouais, je crois que là, je suis sauvé. Et puis dire, ah ouais, là, on est quand même bien. Là, on va pas se plaindre.
Commence ensuite pour toi une longue attente, j'imagine assez particulière, pour savoir si ton chrono pourrait tenir jusqu'à la fin de la compétition, en tout cas le plus tard possible. Il se trouve que la fin de la compétition, c'est 22 jours après. C'est quand même assez long. Comment est-ce que tu as géré cette attente au quotidien? Est-ce que tu as été surveillé de façon, tous les jours, les résultats en attendant le départ des élites qui était prévu pour le dernier jour officiel de la course le 18 septembre? Est-ce que tous les jours, tu as été un peu surveillé comment performaient les autres coureurs et voir si tu maintenais ta première place?
Je dirais pas que je vérifiais tous les jours, mais je vérifiais de temps en temps. Et de toute façon, en fait, je savais que c'était un peu secret la course élite le dernier jour, mais je le savais parce que justement, j'étais plus ou moins convié. J'étais convié. Mais je voulais pas courir.
Assister, hein, c'est ça.
Oui. J'étais de venir la courir, quoi. Ouais.
D'accord.
En fait, je voulais pas la courir ce jour-là parce que il y avait le championnat de Finlande de relais qui était le lendemain, ou quoi. Et donc c'était un objectif ou peut-être l'objectif principal de mon club. Donc voilà, je pouvais pas me permettre. Mais par contre, le jour le 18, là, donc, je pensais qu'ils allaient courir le matin comme nous. Et donc, je regarde les résultats au milieu du matin, tout ça, je vois, et puis ils n'étaient pas arrivés, tout ça. Je dis, finalement, ils ont annulé ou quoi? Il y a quoi? Il y a de la neige ou je sais pas. Donc là, je demande à mes collègues. Et puis là, ils me disent, ah, mais non, mais t'as pas vu, c'était quoi? C'était sur, je sais pas, Salomon Running ou je sais pas quoi, les réseaux sociaux. Et donc, ouais, ils mettaient des vidéos, tout ça, donc ils partaient l'après-midi.
Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Qu'est-ce que tu imagines ou t'espères raisonnablement sur ta position finale avant que les élites s'élancent? Tu te dis que c'est sûr qu'ils vont être un certain nombre qui va passer devant toi ou est-ce que finalement tu t'en soucies pas vraiment? Enfin, comment t'appréhendes la chose?
J'avoue, je m'en soucie pas plus que ça, mais par contre, ça m'intéresse. Enfin, j'ai vraiment envie de savoir qui c'est qui va me passer devant, comment ça va se passer, quoi. Donc là, c'est plus ça m'excite que ça m'angoisse pas du tout. En fait. Non, ça préoccupe pas du tout. Et du coup, mais c'était dur de suivre. C'est ça qui est un peu dommage. On pouvait pas voir les choix, les temps intermédiaires, tout ça. Mais en plus, ils sont partis assez tard finalement. Bon, bref, moi en fait, j'étais plus ou moins en quarantaine. Encore à ce moment-là, ouais, parce que en quatorzaine en Finlande, et je travaillais en télétravail, ouais. Et du coup, je regardais quand même régulièrement, puis il n'y avait rien qui se passait. Et puis bon, le soir, il fallait quand même que j'aille plus ou moins faire ma séance, et en plus, j'étais censé ramasser des balises d'une petite compétition que mon club avait fait la veille. Bref, du coup, là, je suis allé speed, je voulais à fond voir les résultats, et donc voilà. Donc après, en fait, on ne sait pas ce qui se passe. Juste à l'arrivée, je vois leur temps, ah, mais il n'y a que Kylian devant. Et là, ça m'a surpris, quoi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a? Je suis bien.
Qu'est-ce que tu ressens, ça... justement? Parce que voilà, Kylian donc tu finis deuxième de cette Cyrzignale à seulement 30 secondes de la légende Kylian Jornet et devant des coureurs de très grande renommée que sont notamment Rémi Bonnet et Davide Magnini. Qu'est-ce que tu dis à ce moment-là quand tu comprends que ça y est, cette deuxième place est à toi et que ce chrono, finalement, hormis la légende Kylian et qui n'est pas tant devant que ça que toi, personne n'a réussi à s'en approcher? Tu savoures?
Déjà, ça m'a fait, je sais pas comment dire, ça m'a fait marrer ou sourire. Ouais. Puis après, je me suis dit, mais attends, mais c'est vrai ça? Enfin, j'essaie de voir s'il y avait d'autres résultats quelque part pour vérifier tout ça. Et puis non, après, quand j'ai compris que, je me suis dit, j'ai fait une bonne course, quoi. Et non, c'est sûr que Kylian, c'est la référence, c'est la référence de la référence, quoi. Donc,
t'as eu l'occasion d'échanger avec lui suite à ça, suite à cette course?
Non, pas vraiment. Je crois qu'il m'a mis un petit commentaire sur un post Instagram. Donc là, ça m'a fait plaisir quand même. J'ai vu qu'il avait vu ce que j'avais fait.
C'est très improbable comme résultat. Peut-être que toi, tu étais en capacité de mesurer ton potentiel, mais peut-être pour les gens qui ne te connaissaient pas et du fait de ta cotitra dont on parlait tout à l'heure, t'es vierge, en fait, c'est complètement inattendu, en tout cas, de te voir arriver et briller à ce point-là.
Oui, je crois. Entre autres, Ben, je connaissais des 2-3 orienteurs suisses qui couraient justement le dernier jour là, en septembre. Et ils m'ont dit après, ah ouais, mais en fait, les gens, ils se disaient, mais non, mais c'est fake. C'est pas un vrai résultat, quoi. C'est qui ce gars-là? Ou alors il a triché, je sais pas, il a pris un vélo électrique ou j'en sais rien. Donc, ouais, c'est un peu discuté, ouais. Et apparemment, bon, ouais, moi je sais ce que j'ai fait de toute façon, et puis voilà.
Tu dois rien à personne, effectivement.
Ouais.
Et aujourd'hui, il est probablement un peu tôt pour le dire, mais est-ce que tu as le sentiment que cette course a changé les choses dans ton parcours sportif et même dans ta vie? Est-ce que ce coup d'éclat, il a changé le regard du milieu sur toi et peut-être même d'un plus large public? Ou en tout cas, tu as ouvert à de plus larges regards?
Ben, on va dire pour ma vie, ça n'a rien changé, quoi. Enfin, j'estime que les résultats dans le sport ne définissent pas la personne. Donc, même si un jour j'étais champion du monde ou quoi, ou je gagne le meilleur trail au monde, ça, j'espère que ça va pas trop changer ma personne, en tout cas. voilà. Après, par contre, bien sûr, sur le plan sportif, bah, en fait, ça a changé surtout le regard des autres. Du coup, comme ça m'était arrivé en 2010 avec la CO, enfin, je pense, et c'est déjà le cas, ça m'ouvre des portes en fait. Donc du coup, voilà, donc je le vois comme ça, donc c'est une chance quoi. Après là, j'essaye d'un peu de surfer sur la vague tant qu'elle est là. Donc là, j'essaye de faire un peu des compètes. Ben, entre autres, je vais faire le Golden Trail Series, là où je me suis qualifié justement grâce à cette performance. Donc ouais, ça va être chouette. Et puis après, voilà, faut voir comment ça se passe. Bon déjà, là, ça s'est bien passé 2-3 courses, donc j'aimerais bien en faire un peu plus, ouais.
Est-ce que ces résultats exceptionnels en trail te font poser des questions sur ta future orientation sportive? Est-ce qu'on pourrait imaginer te voir arrêter ou peut-être mettre partiellement de côté ou sur une saison ou deux la course d'orientation pour te consacrer plus spécifiquement au trail?
Ouais, ben, j'ai pas encore prévu de mettre de côté la course d'orientation. Entre autres, je suis assez motivé pour les, enfin, je suis bien motivé pour les championnats du monde l'année prochaine où je pense que ce sera des terrains qui peuvent m'aller, je sais pas. En fait, ces championnats-là, ils sont début juillet. Donc après, ça laisse un peu du temps pour le reste de l'été, l'automne. Donc là, ça me dit bien de faire d'autres courses.
Et
après,
agendas paraissent compatibles.
Oui, en tout cas, j'espère, oui. En tout cas, je ne me ferme pas de porte pour le moment. De toute façon, on va déjà finir cette saison, enfin, du coup, avec la Golden Trail Series. Puis on va voir un peu. Moi, je suis assez opportuniste quelque part. Je vois un peu ce qu'on me propose, qu'est-ce qui peut se faire. Et puis après, faut voir, quoi. Disons que je n'ai pas de contraintes, je n'ai pas d'enfants ou quoi. Donc, je suis assez libre, on va dire. Donc, même avec mon emploi. Bah, en fait, là, c'est ce que j'ai pas dit aussi avec la Finlande. Je pense qu'ils sont vraiment relax. Ils sont plus ouverts à des temps partiels, des choses comme ça. Et c'est vrai que ça, c'est intéressant, quoi. Donc, moi, j'aurais continué un peu comme ça, quoi. Si je peux faire encore quelques années de sport.
Ouais, il y a un respect de l'accomplissement personnel en Finlande.
Oui, oui. Puis aussi, je pense qu'ils sont très flexibles, ouais.
Eh ben, écoute, merci beaucoup, Frédéric, d'avoir partagé avec nous cette course vraiment très atypique et ta performance qui ne l'est pas moins. On va parler maintenant d'avenir et tes futurs projets. Donc, tu viens de nous le dire, tu as gagné ton ticket pour les Golden Trail Series qui sont prévus fin octobre aux Açores. C'est une épreuve de 4 étapes en 4 jours sur des distances qui vont de 20 à 40 km et qui réunit vraiment le gratin mondial du trail. C'est une certaine forme d'accomplissement pour toi d'être au départ de cette Golden Trail Series?
Oui, en tout cas, je suis très motivé. Et oui, quelque part, ben, c'est vrai que dernièrement ou l'année passée ou quoi, j'avais regardé un peu ces vidéos. Ben, l'année passée, ils étaient au Népal et tout, ça me faisait rêver, quoi. Et je me disais, ah, peut-être un jour, je pourrais faire ces courses-là aussi. Du coup, c'est sûr que ça fait plaisir. Après, donc là, c'est un peu particulier comme format parce que c'est 4 jours de suite. Ouais, donc je sais même pas comment je vais, je sais même pas si je vais survivre les 4 jours, quoi. On va voir, hein.
Je suis sûr que oui. Avec quelle ambition, toi, tu te rends là-bas?
Franchement, je vais voir un peu comment ça se passe. J'ai pas trop d'ambition. Je connais pas assez mon niveau et je connais pas assez le niveau des autres, quoi, pour dire. C'est un peu dommage. Je suis presque un peu déçu que Kylian ne vienne pas. J'aurais bien voulu courir face à lui ou avec lui, quoi. Donc, mais bon, je sais que les autres coureurs sont tout aussi bons, donc on verra. Puis ouais, puis aussi, ça va être super sympa, je pense, d'être avec tous les trailers et tout. Puis en fait, je connais quelques personnes, entre autres de la course d'orientation, qui sont des Suisses, des Espagnols, entre autres. Donc ouais, ça va être sympa.
À plus long terme, est-ce qu'il y a une course ou un défi sportif qui te fait particulièrement envie et que tu souhaites absolument réaliser dans ta vie?
Pas plus que ça. Non, j'aime bien faire... Ouais, je pense que je vais essayer de faire plusieurs courses. Après, je ne sais pas si je suis capable de faire, par exemple, des courses mythiques. Je pense peut-être à l'UTMB ou la Grande Traversée, comment ça s'appelle, à La Réunion. Mais je ne suis même pas sûr d'être capable de faire ça. Alors bon, moi, je me contente un peu des Sky Race. En tout cas, ça fait rêver, quoi. Quand on voit des vidéos, là, déjà, franchement, c'était vraiment chouette dimanche, la Sky Race. Donc ouais, ça, c'est peut-être des courses comme ça qui me font rêver, ouais, je dirais. Ouais, ouais. Je vais essayer d'en faire plus, en tout cas.
Je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin, c'est-à-dire la devise qui t'est particulièrement chère et qui te guide dans la vie. Est-ce que tu pourrais nous dire quel serait le motto qui, toi, t'habite au quotidien et te motive?
Bon, je sais pas si c'est un moto, mais je dirais, bah voilà, si t'as envie de faire quelque chose, vas-y quoi. Et puis surtout, vas-y avec le sourire, ça va bien se passer. Et puis voilà, si ça se passe mal, c'est au pire, c'est une expérience et c'est toujours enrichissant. Donc voilà, je sais pas si c'est un moto, mais je dirais quelque chose comme ça.
Il y a toujours quelque chose à y gagner, soit de l'apprentissage, soit des victoires, mais voilà,
Voilà.
il n'y a jamais de
Et puis c'est
défaite, jamais
bien.
d'échec.
Voilà, c'est bien d'y aller avec le sourire parce que voilà, faut être positif de toute façon. Et puis même le sourire, ça coûte rien. Et puis c'est contagieux quoi. Les gens sont contents aussi, donc voilà, c'est ce que je dirais.
Écoute, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup Frédéric de nous avoir fait vivre de l'intérieur ta course à Circinal qui a tant marqué les esprits, à n'en pas douter. C'est aussi la promesse d'autres résultats assez étourdissants dans la discipline. Ton avenir sera radieux, je n'en doute pas, dans cette discipline en course d'orientation dans laquelle tu excelles déjà. En tout cas, je te souhaite beaucoup de bonheur et de plaisir pour la suite, et notamment au Golden Trail Series à venir dans quelques jours à l'heure où on enregistre cette émission. Je t'assure que je vais te suivre avec attention. En tout cas, voilà, profite bien de cette expérience qui s'annonce fabuleuse. Et voilà, je te dis à très bientôt et merci encore beaucoup pour nos échanges, c'était vraiment un plaisir.
Merci, c'était sympa.
À bientôt Frédéric.
À bientôt.
Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous mettre le max d'étoiles sur iTunes. Cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode de Course Épique.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.